Christian Trottmann, bonjour, bienvenue
Oui,
sur Radio
bonjour.
Maria France. Voilà, Christian Trottmann, avant de parler de votre livre, je vais peut-être vous laisser vous présenter en quelques mots à nos auditeurs de Radio Maria France.
Voilà, donc nous parlons aujourd'hui de ce livre consacré à Berne de Clairvaux et la philosophie des cisterciens. Donc c'est un peu particulier d'aborder Bernard par ce point de vue philosophique, hein, et c'est lié à ma spécialité. Donc je suis effectivement agrégé docteur en philosophie et spécialisé donc en philosophie du Moyen Âge. Depuis, j'ai également passé une thèse de théologie catholique, justement sur le thème de ce livre qui est paru donc en janvier dernier chez Brepols dans la collection Nutrix. Voilà. Donc Bernard de Clairvaux, philosophe, c'est un peu un paradoxe, vous voyez. Peut-être pour donner quelques points pairs dans la philosophie. Donc ça commence au 5e, 4e siècle avant Jésus-Christ, avec trois grands noms qui seront Socrate, Platon et Aristote, disons, et puis ensuite quelques autres. Et d'une certaine manière, on peut dire que Bernard est un nouveau Socrate donné à la philosophie médiévale, à la philosophie chrétienne. Et donc la pensée chrétienne, elle commence évidemment après Jésus-Christ, et on peut en discerner quelques moments principaux, si vous voulez, qui sont d'abord une phase qu'on appelle la patristique, hein, les pères de l'Église. Ce sont généralement des évêques ou des moines, hein, et qui écrivent de manière inspirée, évidemment, de la Lecture sainte, hein, et de son commentaire. Et puis on entre avec le Moyen Âge dans une phase monastique. Hein. Alors ça se passe au tournant du 5e siècle, on peut dire, hein, 5-6e siècle. Et d'une certaine manière, on peut dire qu'il y a des invasions barbares et que la culture se réfugie dans les monastères à ce moment-là. Hein. Et donc cette culture monastique va durer, elle continue aujourd'hui encore, on pourrait dire, mais elle va culminer peut-être avec Bernard de Clairvaux. Vous voyez, donc Bernard de Clairvaux, 1090-1153, hein, donc on est au XIIe siècle. Après, il y aura encore une théologie scolastique à partir du XIIIe siècle, avec saint Thomas d'Aquin notamment, mais beaucoup d'autres. Et puis, une dernière phase de la théologie, ce sera un peu ce qu'on enseigne dans les séminaires. Hein, il y aura une théologie post-scolastique. Voilà un petit peu, si vous voulez, la fresque historique. Hein, donc, et Bernard, donc, comme une sorte de nouveau Socrate. Alors, donc, dans ce livre, vous voyez, j'ai deux parties. Une partie sur Bernard de Clairvaux, philosophe, donc, et une deuxième partie sur la philosophie des cisterciens du XIIe siècle. Voilà un petit peu comment est organisé le livre. Alors, je ne sais pas si vous voulez réagir.
Oui, Christian Trottmann, c'est justement que pourquoi ce choix, parce que c'est vrai que Bernard de Clairvaux, homme moine, homme d'église, on en parle en théologie, on a des magnifiques sermons, homélies qui sont restés de Bernard de Clairvaux. Pourquoi ce nouveau regard, finalement, ce nouvel angle, l'angle philosophique à son propos?
Eh bien, je crois que c'est lui-même le requiert, si vous voulez. Pour lui, la philosophie, il combat, vous voyez, la mauvaise philosophie, notamment chez Abélard, hein, alors, qui lui a été un peu dénoncé par son ami Guillaume de Saint-Thierry. Bernard ne prend pas l'initiative de l'agression, si je puis dire, mais quand même, il combat un certain nombre de points chez Abélard, et ce, au nom de la vraie philosophie. Et qu'est-ce que la vraie philosophie, pour lui? C'est ce qu'il appelle le monachum agere, c'est-à-dire faire le moine, si je puis dire, ou vivre la vie monastique. Donc vous voyez que, au fond, on aurait tendance à penser qu'au contraire, il faut regarder Bernard comme théologien, vous voyez. Mais il emploie justement le terme de stultologia, c'est-à-dire l'étude de la sottise, vous voyez, une sorte de sottisologie, vous voyez, à propos justement de la théologie d'Abélard. Hein, c'est Abélard qui réintroduit ce terme de théologue. Vous voyez, il y a un logos sur Dieu. Eh bien, l'humilité de Bernard se moque un peu de cette prétention, vous voyez, à construire un discours logique et un logos sur Dieu. Au contraire, son humilité fait de lui un philosophe, vous voyez, à la recherche de la vérité, et qui ne prétend pas la posséder. Et donc, d'une certaine manière, je crois que ce regard correspond bien à ce qu'est Bernard et à ce qu'il peut attendre de nous, je dirais. Il demande à être regardé de cette manière-là. Voilà.
Et est-ce qu'on peut parler, Christian Trottmann, justement de philosophie qui s'appuie bien sûr sur les vertus chrétiennes? Vous avez parlé à l'instant d'humilité.
Alors, oui. Alors, dans le cas de Bernard, oui, on peut le situer dans un courant qui est celui de l'humanisme chrétien, ou plus exactement du socratisme chrétien. Donc vous voyez, tout à l'heure, j'évoquais la naissance de la philosophie avec Socrate. Hein, Socrate, il meurt en 399 avant Jésus-Christ. Vous voyez. Donc, Socrate, c'est le connais-toi toi-même. Vous voyez, c'est le message de Socrate philosophique, c'est le connais-toi toi-même. Eh bien, Bernard, justement, reprend ce message et cette façon d'aborder Dieu. Il dit noverim me, noverim te, que je me connaisse et je te connaîtrai. Vous voyez, on peut traduire. Mais alors, ce qui est très intéressant, vous voyez, c'est que il y a une tradition manuscrite de Morimont, parmi les premiers monastères donc cisterciens, qui a inversé la formule. La formule, elle vient de saint Augustin, hein, en fait. Que je te connaisse et je te connais, ou que je me connaisse et je te connaîtrai. Mais justement, ils ont inversé, ils ont dit que je te connaisse et je me connaîtrai. Voyez. Donc, d'une certaine manière, l'attitude philosophique de l'humilité philosophique dispose à la grâce et à recevoir donc la lumière divine. Mais réciproquement, l'oraison, on pourrait dire, l'accueil de la lumière divine, eh bien, nous amène à mieux nous connaître. Et on a véritablement ce double mouvement, je crois, au cœur de la philosophie de Bernard.
Oui, parce que au-delà de cette philosophie, vous allez encore nous en parler, Christian Trottmann, il y a aussi un tempérament, un caractère assez fort. C'est un combattant aussi, Bernard de Clairvaux.
Voilà, et donc effectivement, il prêchera la croisade. Alors là aussi, il faut être prudent, vous voyez, il prêche la croisade, mais c'est parce que le pape de l'époque est Eugène III, c'est un cistercien, c'est lui qui lui demande de la prêcher. Voilà, et donc on est à une époque effectivement où les lieux saints sont devenus inaccessibles, puisque les pèlerins sont rançonnés, voire quelquefois tués à l'approche donc des lieux saints. Et donc c'est la raison pour laquelle Bernard, à la demande de Eugène III, donc prêche la croisade. De même, donc on a parlé de son rapport avec Abélard. Hein, au fond, comment dirais-je, il n'y a aucune animosité, contrairement à ce que certains ont pu écrire, de Bernard à l'égard d'Abélard. Hein, il n'y a aucune animosité personnelle, aucune agressivité. Je crois que, au fond, Bernard est même un doux. Vous voyez, la philosophie de Bernard, donc je la situerai dans ce courant dont j'ai parlé à l'instant, qui est celui donc, du socratisme chrétien. Hein, et en ce sens, il est un héritier d'Origène. Hein, Origène est un des tout premiers philosophes patristiques, si vous voulez, et un des plus grands, hein, les deux grands, c'est Origène et Augustin, si vous voulez, pour la patristique, hein, grec pour Origène, latine donc pour Augustin. Mais donc pour ce qui est de Bernard, il est donc l'héritier de cette tradition socratique, et je disais que la douceur est au cœur de sa philosophie. On peut trouver une grande structure de la philosophie de Bernard que je mets en évidence donc dans cette première partie du livre, à savoir donc l'humilité conduit au connais-toi toi-même, mais elle ne peut être menée à bien que par le détour de la charité. Vous voyez, c'est-à-dire, je ne peux vraiment me connaître moi-même qu'à travers le regard de l'autre, qu'à travers le regard de celui que j'aime. et cette charité me conduira à la contemplation. Donc il n'y a pas d'accès direct, vous voyez, de l'humilité à la contemplation. Hein, on trouverait d'autres moines, justement, pour essayer de tracer ce chemin direct de l'humilité à la contemplation. Dans le cas de Bernard, il y a ce détour par la charité. Et il dit justement que, bon, si je suis confronté à la misère de mon frère, eh bien, que je garde présente à mon esprit ma propre misère, faute de quoi je ne pourrais pas exercer la compassion et la miséricorde à son égard. Et en effet, si je suis donc confronté à cette misère de celui que j'aime, je peux lui dire « Ah oui, bah oui, tu t'es mis dans une sale situation. Hein, » Comme les, vous savez, les amis de Job, qui lui disent « Si tu n'avais pas péché, tu ne serais quand même pas dans cet état-là. » Vous voyez, donc ce n'est pas vraiment une consolation. Et puis, deuxième risque, c'est de dire « Oui, évidemment, ce n'est pas de ta faute, c'est à cause de ces salopards-là qui t'ont mis dans cet état, excusez-moi de dire des gros mots à l'antenne. » et donc, à ce moment-là, on aura un autre manque de douceur qui sera cette fois non pas à l'égard de celui qui est déjà souffrant, mais à l'égard de ceux qui l'ont fait souffrir. Et Bernard explique très bien qu'au contraire, c'est l'attitude de douceur, justement, face à la misère de mon frère, qui consiste justement à savoir que je suis encore plus misérable que lui. Cette attitude d'humilité donc et de douceur, elle va, déclencher les cataractes de la miséricorde divine. Vous voyez, et il y a quelque chose de central là, hein, dans la philosophie de Bernard. Et j'espère que ça répond à votre question. Hein, effectivement, ces vertus d'humilité et de douceur qui sont celles du Christ même, hein, le cœur de Jésus, doux et humble. Hein, Jésus doux et humble de cœur, d'une certaine manière, on a une philosophie du Sacré-Cœur, vous voyez, chez Bernard. Eh bien, ce sont elles qui conduisent, hein, d'abord de l'humilité par ce détour de la charité, eh bien, à la contemplation de Dieu. Voilà.
Alors justement, dans cette première partie, Christian Trottmann, de votre ouvrage qui sur Saint Bernard de Clairvaux, philosophe, qu'est-ce qui fait justement l'originalité de cette partie? Parce que des ouvrages sur Bernard de Clairvaux, d'autres ont été écrits, beaucoup ont été écrits, mais vraiment sous cet angle-là de la philosophie, qu'est-ce qui nous permet de mieux comprendre Bernard de Clairvaux et sa pensée?
Voilà, alors oui, vous avez raison, hein, il y a beaucoup d'autres angles possibles, hein, de regard sur Bernard de Clairvaux. Étienne Gilson avait écrit la théologie mystique de Bernard de Clairvaux. Donc, en regardant justement du point de vue de la théologie et de la mystique. Mais son idée, c'était de faire pendant, si je puis dire, à la théologie des grands scolastiques du XIIIe siècle. Dire, bon, mais je crois que le point de vue de Bernard, comme je l'expliquais tout à l'heure, n'est pas celui d'un théologien au sens justement où cela prendra sens au XIIIe siècle. Vous voyez, donc c'est pourquoi je préfère l'aborder de ce point de vue strictement philosophique et en le situant, vous voyez, dans ce courant de la philosophie monastique. Alors ça, c'est la manière dont l'a abordé Jean Leclerc. Jean Leclerc, c'est le grand spécialiste de Bernard. C'est lui qui a édité, de manière presque critique, on peut dire, l'ensemble des œuvres de Bernard, donc si vous voulez, l'édition de référence, en latin, hein, évidemment, des œuvres de Bernard, c'est Jean Leclerc. Et Jean Leclerc, il disait, la philosophie de Bernard, c'est une philosophie monastique. Je crois qu'il a tout... Mais il voulait, justement, il disait pas théologie monastique, enfin si, il disait théologie mystique, pardon. Mais justement, moi, ce que je dis, c'est que, cette théologie monastique, elle est d'abord philosophique. Et c'est pourquoi je l'aborde de cette manière-là, à partir du connais-toi toi-même et du point de départ de l'humilité. Voilà. Alors après, évidemment, Bernard, donc si vous voulez, ça c'est une des spécificités. L'autre spécificité, je dirais, c'est de montrer que chez Bernard, on a une alternative, je dirais, à la métaphysique du XIIIe siècle, qui est ontologie, et qui parle de la question de l'être. Bernard ne l'ignore pas, hein, et dans le cinquième livre de son De Considerationé, qui est son chef-d'œuvre, je dirais, et adressé donc au pape Eugène III dont j'ai déjà parlé, qui était un cistercien, donc issu de son ordre, eh bien, dans ce cinquième livre, qui est le plus contemplatif, il repose la question de l'être, mais surtout il va au-delà, jusqu'à la question de l'un. Et pour Dieu, pour lui, Dieu est plus encore qu'être, il est un. Vous voyez, et alors il fait toute une hiérarchie des unités, des manières d'être un. Vous voyez, en partant du tas de cailloux, dans le tas de cailloux, il y a beaucoup de cailloux, ils sont un, enfin, ils sont dans un tas, quoi, ils sont agrégés. Moi, j'en rigole quelquefois, puisque moi aussi, je suis agrégé de philosophie, vous voyez. Mais c'est le degré minimum d'unité, vous voyez. Après, vous avez l'unité de l'âme et du corps, donc c'est déjà plus en forme, vous voyez, on n'est pas dans un tas simplement, mais on est en forme. Donc, et puis ensuite, vous avez l'unité maximum entre les corps, c'est celle qu'il appelle conjugative entre l'homme et la femme. Puis ensuite, il monte dans les degrés d'unité. Il y a l'unité qui découle de ça, dans l'enfant qui peut naître, donc. Et puis ensuite, il y a l'unité de vie. Je cherche à être un avec moi-même, à être cohérent avec moi-même, donc ça, dans une vie vertueuse. Et puis, il y a le désir d'être uni à Dieu. Pardon, d'abord, il y a l'unité entre les chrétiens, ils ne faisaient qu'un, et ils étaient fidèles à la prière, vous savez, au début de l'acte des actes des apôtres, et nul ne disait sien ce qui lui appartenait, etc. Donc c'est degré d'unité, donc ils sont des unités de l'âme. L'unité ultime de l'âme, c'est l'âme qui cherche à être unie avec Dieu. Et puis après, il y a un degré supérieur qui est l'union de la divinité avec l'humanité dans le Christ. Mais toutes ces unités-là, oui, c'est rien par rapport à l'unité substantielle qui existe dans la Trinité. Alors vous voyez, on est entre la Trinité et le Sacré-Cœur, j'ai déjà un peu parlé du Sacré-Cœur, je vais pouvoir parler un peu de la Trinité maintenant. Et ce que nous dit Bernard, c'est que rien n'est plus un que les trois, si je puis dire. Vous voyez, donc l'unité suprême, c'est l'amour du Père et du Fils, qui est le Saint-Esprit, hein, c'est l'union des trois personnes divines. Vous voyez, ça c'est très important si on veut penser la spécificité du christianisme. Et certains ont tendance à reprendre cette idée qu'on trouve dans la tradition islamique, que le christianisme serait une religion du livre. Pas du tout. C'est une religion du Verbe, de la personne divine du Verbe. Vous voyez. Et donc unité de trois personnes. Vous voyez. Alors c'est Rémi Brague qui dit ça dans un livre que je vous conseille, de la religion des chrétiens et d'une ou deux autres. Et Rémi Brague dit les monothéismes, c'est pas tant de savoir. Ce qui est plus important, c'est pas seulement de savoir qu'ils ont un seul Dieu, c'est de savoir comment considèrent-ils que leur Dieu est un. Vous voyez. Et pour l'islam, il dit, il est un comme un métal qui n'a pas de faille, qui n'a pas de paille, vous voyez, qui est dur. Pour les juifs, Dieu est un comment? Eh bien, parce qu'il est fidèle même lorsque son peuple est infidèle. Donc il reste cohérent, je dirais, avec l'amour qu'il a donné au départ. Et bien pour les chrétiens, Dieu est un de son amour même, de l'amour même qui vit entre les trois personnes de la Trinité. Et donc, il n'y a pas d'unité, si vous voulez, plus solide, plus forte, que cet amour trinitaire, vous voyez, pour Bernard. Alors, donc, la spécificité de ce livre, vous voyez, est de regarder Bernard comme philosophe, de le regarder, de déplacer le point de vue de l'ontologie, si vous voulez, qui domine, je dirais, une certaine théologie depuis Léon XIII, et donc l'importance qu'il a donnée au thomisme, hein, qui est tout à fait formateur, hein, je ne dis pas du tout de mal du thomisme, mais pour aller à la spécificité justement de Bernard, c'est de poser cette question de l'un comme plus ultime que la question de l'être. Voilà. Mais, excusez-moi, là j'étais un petit peu dans un tunnel, comme on dit en termes de radio. Oui, je voudrais, pour les auditeurs de Radio Maria, je voudrais évoquer quelques aspects de la mariologie et de la façon de quelques pépites, en quelque sorte, de la pensée de Bernard sur la Vierge Marie. Donc, parce qu'il est aussi, bien sûr, théologien, et donc pas seulement d'une théologie philosophique, hein, dont j'essaye de montrer que les avant tout centré sur la question de l'homme plus que sur la question du maître. Il repart aussi de l'écriture et il médite sur alors, si vous permettez, je vais essayer de retrouver ma page. J'ai la version électronique de mon livre là. Voilà. Hop. Sous les yeux.
On connaît la
Et
grande dévotion de Saint
voilà.
Bernard de Clairvaux pour
Voilà.
la Vierge Marie.
Alors, tant pis, je vais le faire de mémoire parce que je n'ai pas réussi à retrouver la page. Mais donc, il fait cette comparaison. Donc, si vous voulez, hein, c'est tout à fait ce qu'on vient de dire. Hein, on vient de dire qu'il n'y a pas plus un que l'unité de la Trinité. Mais l'unité qui vient après, c'est l'union de la divinité avec l'humanité du Christ. Parce qu'on a la grâce d'élection, hein, particulière au Christ, l'union hypostatique. Hein. Et donc, où cette union a-t-elle été réalisée? Eh bien, dans le sein de la Vierge Marie. Hein, c'est elle qui a pris ces trois mesures de farine, hein, de l'âme, du corps du Christ et de sa divinité, et les a fait cuire en quelque sorte dans son sein virginal. Hein, donc, vous voyez, très belle image de la théocoction, si vous me permettez ce jeu de mots. Hein, Marie qui est théotokos, hein, eh bien, elle est en quelque sorte cocotte, si je puis dire, excusez-moi de présenter avec des choses aussi sérieuses. Elle se fourre, hein, de charité, hein, dans lequel s'unit l'humanité et la divinité du Christ. Et dit-il, mais quel est donc le levain, hein, de cette pâte qui a pris donc dans le corps, le sein virginal de Marie? Eh bien, c'est sa foi. Et dire que cette unité justement de la divinité avec l'humanité du Christ, elle va résister à la mort et à la résurrection. Qu'est-ce qui se passe en résurrection? Eh bien, l'âme et le corps de Jésus ont été séparés par la mort, mais il reste uni à sa divinité. Et l'unité va être capable de les ressusciter. Et cela, d'une certaine manière, grâce à Marie, hein, qui a dans le sein de qui comment dire, l'humanité et la divinité du Christ ont été unies. Hein, donc, rôle de la théotokos. Vous voyez, il y aurait encore beaucoup à dire, mais je vois que je suis à la fin de mon temps, je pense, de parmi les philosophes cisterciens dont je n'ai pas parlé aujourd'hui, mais je les regroupe, hein, en trois groupes, les plus proches de Bernard. Donc, quelques autres, donc L. de Rivaux, qui est un philosophe de l'amitié. Dans un deuxième groupe, je prends les plus philosophes, hein, c'est-à-dire Isaac de l'Étoile notamment et quelques autres. Et puis dans le troisième groupe, il y a ceux que j'ai appelés les satellites, qui sont un peu plus loin. Donc il y a l'ami Guillaume de Saint-Thierry, qui est proche de cœur, mais philosophiquement pas si proche que ça, ce que j'essaie de montrer. Et puis ensuite, et deux autres personnages, qui sont Alain de Lille et Joachim de Flore. Alors, Alain de Lille, il écrit. Alain de Lille, c'est quelqu'un qui a d'abord été scolastique. Il a combattu les hérétiques aussi, enfin les cathares dans le sud de la France, avant de venir mourir à Cîteaux. Donc, il a dû arriver à Cîteaux 2 ans avant sa mort, si vous voulez. Et donc, il y a encore à Cîteaux comment dire, dans le couloir qui mène au réfectoire des moines, une plaque, hein, à son nom. Et puis, il y a eu des monuments plus tardifs qui ont été faits pour lui, donc peu importe. Mais donc, Alain de Lille, il écrit un commentaire des Cantiques. Hein, le commentaire du Cantique des Cantiques, c'est un peu une tradition cistercienne. Bernard en écrit un, en commence un, qui va être continué par d'autres. Et donc, celui d'Alain est assez spécifique parce que il l'applique justement à la Vierge Marie. Il dit, si vous voulez, la bien-aimée, c'est par excellence pour les Juifs, le peuple juif, pour les chrétiens, l'Église. Et parmi l'Église, au sein de l'Église, c'est par excellence la Vierge Marie qui est la bien-aimée. Et donc il va appliquer cela, notamment dans l'idée que le baiser, hein, baise-moi d'un baiser de ta bouche, demande la bien-aimée, eh bien, c'est justement l'incarnation dans laquelle le Verbe vient prendre chair en la Vierge Marie. Vous voyez, encore une petite fiorette, une petite fleur de cette théologie mariale des cisterciens du XIIe siècle.
Christian Trottmann, c'est dans cette deuxième partie de l'ouvrage où vous élargissez, hein, à la philosophie cistercienne, évidemment, ses collaborateurs, enfin, ces cisterciens qui ont aussi apporté leur pierre à l'édifice, hein, de cette philosophie cistercienne. En tout cas, pour aller plus loin, il suffit simplement de se procurer votre ouvrage. Je rappelle aussi à nos auditeurs, hein, le titre, hein, donc Bernard de Clairvaux et la philosophie des cisterciens du XIIe siècle. L'éditeur, vous l'aviez dit, hein, en commençant, c'est Brepols, collection Nutrix, hein, c'est ça?
Voilà, exactement. Alors, c'est un peu cher, donc faites-le acheter par votre bibliothèque si vous ne pouvez pas, enfin, si vous considérez que, comme moi, que c'est un peu cher, n'hésitez pas justement à le conseiller donc à vos bibliothèques préférées. C'est comme ça, ce sera en même temps peut-être utilisable par d'autres, donc voilà. Et donc, juste un mot sur ces philosophes cisterciens du XIIe siècle. Il n'y a pas une école, vous voyez, ce ne sont pas des Bernardines, si vous voulez, des disciples de Bernard. Ce que j'essaye de montrer, c'est qu'il y a une profonde communion, hein, de tous ces philosophes cisterciens avec Bernard, mais qu'en même temps, chacun a son originalité.
Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Christian Trottmann, pour ce partage et pour nous avoir parlé de votre livre.
C'est moi qui vous remercie.